Gloire à toi. Me voici, je m'abandonne à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous nous abandonnons à cet amour si merveilleux. Oh, nos cœurs te célèbrent. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Nous restons dans la présence du Seigneur. Et certainement, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Nous ne sommes rien, lui seul est tout. Lui seul connaît nos cœurs, vos cœurs. Et il veut certainement donner à chacun une parole qui corresponde à ses besoins. Soyons seulement ouverts, soyons attentifs et surtout dociles à sa voix. Lorsqu'il nous parle, que nous puissions dire « Oui, Seigneur, je veux faire ta volonté. » Amen. C'est très important. Nous ne devons pas être des auditeurs oublieux, mais nous devons écouter pour mettre en pratique ce qu'il nous dit. C'est alors que nous serons heureux, c'est alors que nous aurons du succès dans ce que le Seigneur nous demandera. Amen. Ainsi, j'aimerais vous apporter un court message important pour chacun d'entre nous, car les temps dans lesquels nous vivons sont des temps extrêmement difficiles, la Bible dit même périlleux, des temps dangereux. Et dans ces temps de la fin, il est dit que la charité d'un grand nombre se refroidira. Et j'aimerais que nous puissions voir ensemble comment rester bouillant dans ces temps de la fin. Et le titre de mon message sera « Pourquoi certains chrétiens perdent leur flamme ?» Car, nous le constatons, beaucoup de chrétiens ont perdu leur flamme et beaucoup perdront encore leur flamme. Est-ce la volonté du Seigneur? Certainement pas. Alors, il nous faut savoir pourquoi certains perdent leur flamme et comment y remédier et ne pas rester toujours dans un état qui déshonore le Seigneur, qui l'attriste et qui l'empêche d'agir dans nos vies. N'est-ce pas vrai? Ainsi, nous allons prendre un passage dans l'épître de Paul aux Galates et considérer que les Galates eux-mêmes avaient ce problème et Paul voulait remédier à cette situation. Ils avaient bien commencé, les Galates, mais ils commençaient à mal finir et à dévier. Et lisons donc dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 2 jusqu'au verset 12. Lisons ces quelques paroles où nous voyons que les Galates avaient ce problème. Plusieurs avaient perdu leur flamme. Et voilà ce que Paul leur dit. Galates, chapitre 5, verset 2, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois. » Vous voyez dans quel esprit est Paul? Donc il voyait que les Galates à qui il avait enseigné la vérité commençaient un peu à dévier, commençaient à prendre des directions qui n'étaient pas bonnes. Il commençait à accepter des enseignements qui n'étaient pas bons. Je proteste, encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous voyez, vous avez commencé par la grâce, et maintenant ils finissent par la loi. Alors, ça n'allait pas du tout. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons. Par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Écoutez bien maintenant, c'est sur ce verset 7 que nous allons nous arrêter. Vous couriez bien. Et dans le texte grec, c'est « vous couriez si bien ». Votre course était si merveilleuse, Paul leur dit. Vous couriez si bien. C'était splendide, votre course était splendide. C'est la pensée du texte. C'était si merveilleux. Vous couriez si merveilleusement bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Amen. Nous voyons donc ce trouble, c'était quoi? C'était les fausses doctrines qui s'infiltraient. Donc, des juifs qui s'étaient convertis et qui maintenant voulaient revenir à la loi qu'ils avaient quittée. Et Paul a vu cette déviation. Il a dit, mais c'est pas possible. Si vous cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. On ne peut pas être sauvé par la grâce et par la loi en même temps. Mais eux, ils voulaient mélanger les deux. Vous savez, on vit dans des temps où c'est un peu, on fait que des mélanges. On aime les mélanges actuellement. Et on pense que même que c'est une question de sagesse. Quand on prend un peu de tout, on fait les mélanges, on pense que c'est bien ainsi, c'est une bonne attitude. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu pense. La vérité est la vérité, et nous ne pouvons pas la mélanger avec l'erreur, n'est-ce pas vrai? Et l'erreur, c'est quoi? C'est comme, il est dit ici, comme du levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est comme si Paul disait, voyez-vous, ce levain de fausse doctrine avec la loi que vous essayez de ramener pour être sauvé par la grâce, mais encore avec la loi, ça a produit du trouble. C'est un levain qui commençait à fermenter dans l'Église et qui mettait le trouble. Voyez-vous, un peu de fausse doctrine, un peu de faux enseignement, et tout est en ébullition, n'est-ce pas vrai? Et c'est ainsi que dans beaucoup d'Églises, aujourd'hui encore, à cause d'enseignements qui ne sont pas conformes à la parole, c'est l'ébullition, c'est les tensions, c'est le levain qui est là et qui lève toute la pâte et qui met en tension, en lutte l'un contre l'autre, les chrétiens. L'ennemi est content et l'Esprit de Dieu est attristé. Ça, c'est un point. Mais nous allons revenir à cette pensée. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Alors, pourquoi certains chrétiens perdent leur flamme? J'ai ici sept raisons que j'ai notées ici, sept points importants. Qui vous a arrêté? Et d'une manière ou d'une autre, nous devons nous examiner. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Nous devons veiller, mes amis. Sinon, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi essaiera toujours de nous arrêter. Mais nous devons veiller à cela afin de pouvoir résister à ses ruses et être victorieux quelles que soient les situations, les conditions dans lesquelles nous pouvons être placés. Alors, premier point, qui vous a arrêté? Alors, une première raison peut être donnée, est-ce le mauvais témoignage d'autres chrétiens? Voilà une première raison. Qui vous a arrêté? Est-ce le témoignage de mauvais chrétiens? Et lorsque nous voyons certains chrétiens qui sont comme sur la touche maintenant, qui étaient si bouillants, qui manifestaient même des dons spirituels, qui avaient même un ministère, qui étaient remplis de feu, et maintenant, on dirait presque des glaçons. Il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu dans cet état-là? Tu as si bien commencé. Qui donc t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Est-ce peut-être le témoignage d'autres chrétiens? Oui, tu as commencé à regarder un peu trop à l'homme. Tu as pris certains chrétiens comme exemple. Et tant que ça allait bien, ça allait. Mais le jour où tu t'es aperçu que cet exemple n'était pas tellement un bon exemple, tu t'es refroidi et tu as dit, ah, c'est ça les chrétiens, toi en qui j'avais confiance, toi tu as fait ça. Si c'est ça, au revoir, c'est terminé maintenant, tous ces chrétiens sont des hypocrites. Voilà la conclusion qu'on en fait. Tout le monde ne le fait pas, mais certains chrétiens ont de telles conclusions et maintenant ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Pourquoi es-tu dans cet état-là? Parce que tu n'as pas saisi une leçon importante dans la vie chrétienne. Tu seras toujours déçu des hommes et des chrétiens, mais tu ne seras jamais déçu du Seigneur. C'est pourquoi tu ne dois pas mettre ta confiance dans un homme. Jésus seul doit être notre exemple. Il est notre exemple, nous dit l'apôtre Pierre, afin que nous suivions ses traces. Alléluia. Hébreux 12 nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Mais vous savez, dans le texte grec, ce qu'il est dit, quand il est dit « ayant les regards », ayant, ce n'est pas très précis, dans le texte grec, vous savez la pensée qu'il y a, la pensée est celle-ci, « détournant les regards de toute autre chose, de toute autre personne, pour les fixer que sur une seule personne, Jésus. » Courez avec persévérance dans la carrière qui est devant nous. Alléluia! Voilà ce que l'apôtre dit, détourne tes regards de toute autre chose pour les fixer que sur un seul Jésus, ton modèle, qui lui ne te décevra jamais. Pourquoi es-tu arrêté? Pourquoi as-tu perdu ta flamme? Parce que tu as trop regardé au mauvais témoignage des chrétiens. En qui peut-être tu t'étais confié et tu es déçu maintenant. C'est vrai, ce qu'ils ont fait n'est peut-être pas bien, mais toi aussi, ta réaction n'est pas bonne. Ton attitude n'est pas bonne. Qui t'a dit qu'il fallait regarder à l'homme ou au chrétien? C'est au Seigneur que tu dois regarder. Amen. C'est à lui. Pourquoi tu regardes toujours autour de toi? Il y a des chrétiens qui sont comme cela. Ils observent continuellement les uns et les autres. Avez-vous remarqué certains chrétiens? Au début, même à la fin de leur vie. Au début, ah, celui-là est formidable! Formidable! Vous savez, quand quelqu'un commence à parler comme cela tôt ou tard, vous allez entendre la bouche de cette même personne. Que cette personne est loin d'être formidable. La personne qu'ils ont élevée jusqu'au ciel maintenant la jette en enfer même. Allez, déçu. Jamais j'aurais cru qu'il soit un chrétien comme ça. Jamais. Ça, jamais. Ne m'en parlez plus. Les regards sur l'homme. C'est ainsi que l'homme agit, n'est-ce pas vrai? Mes amis, ne mets pas ta confiance dans l'homme ou dans un chrétien. Mets ta confiance dans le Seigneur et tu ne seras pas déçu. N'est-ce pas vrai? Il ne te décevra pas. Alors demande pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur, j'ai trop regardé à l'homme. D'ailleurs, les autres ne sont pas parfaits, mais toi, est-ce que tu es parfait? Tu es parfait. Est-ce que tu es parfait? Ils ont mal agi, mais toi, est-ce que tu es parfait? Alors, ne reste pas dans cette position qui te paralyse et qui t'empêche d'aller de l'avant. Dieu a permis cela dans ta vie chrétienne pour que tu sois une fois pour toutes libéré de regarder à l'homme pour regarder au Seigneur seul qui est ton modèle et qui est ton exemple qui ne te décevra jamais. Alléluia! Ayons les regards fixés sur Jésus. Détourne où est-ce que tu regardes ce soir. Ne regarde ni autour de toi, ni en toi. Regarde à Jésus. Fixe les regards sur le chef et le consommateur de ta foi. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre l'achèvera. Ne te décourage point. Qui t'a arrêté? Ne te laisse pas arrêter par les chrétiens ou par les mauvais chrétiens. C'est une excuse facile. Et Dieu n'accepte pas cette excuse-là. Si tu es prêt à faire des reproches aux chrétiens, il faut que tu sois meilleur que lui. Si tu n'es pas meilleur que lui, tu es comme lui. Amen. Qui t'a arrêté? Mon frère, ma sœur, que le mauvais témoignage des autres ne t'arrête pas. Apprends une fois pour toutes que des hommes, des chrétiens, tu seras déçu, mais du Seigneur jamais. Amen. Ton cœur, attache-le au Maître, attache-le au Seigneur, et tu iras de victoire en victoire, et ta flamme grandira de plus en plus. Elle sera plus pure, plus belle. Deuxième point maintenant. Qui vous a arrêté? Deuxième raison, est-ce la persécution? L'incompréhension, l'opposition. Voilà une autre raison maintenant qui fait que certains chrétiens sont arrêtés à cause de leur témoignage pour le Seigneur. La récompense n'a pas été là, au contraire. Vous avez cherché à être fidèle au Seigneur et on a commencé à se moquer de vous. On a commencé à dire des mauvaises choses sur vous. On s'est opposé à vous. On a commencé même à vous calomnier à cause de Jésus. Et vous vous êtes dit, ben, si c'est ça, c'est fini maintenant. Je fais de mon mieux pour servir le Seigneur. Je fais de mon mieux pour lui plaire. Et voilà ma récompense. Voilà maintenant dans quel état je suis. C'est encore pire qu'avant. Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Et la flamme a commencé à baisser. On veut bien suivre le Seigneur, mais on ne veut pas de tribulation. On veut bien être un chrétien, alléluia. Mais on ne veut pas être un chrétien, amen. Si nous voulons être un chrétien victorieux, il nous faut être les deux. Un chrétien, alléluia, et un chrétien, amen. Amen, ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie, coûte que coûte. Quels que soient les combats, les persécutions, par amour pour toi, je veux te suivre. Pourquoi es-tu arrêté? À cause des tribulations et des persécutions? Écoute alors la parole du Maître, la parole que le Maître veut te donner, et qui dit dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations, mais prenez courage dans le monde, mais prenez courage et vaincu le monde. Et dans Matthieu chapitre 5, Jésus nous a avertis qu'il en serait ainsi, que nous serions persécutés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Voyez-vous, ce n'est pas se refroidir, il n'est pas dit refroidissez-vous. Le Seigneur n'a pas dit refroidissez-vous. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Vous vous rendez compte? Parce que votre récompense sera petite. 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 Non, c'est vrai, vous avez raison. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ne soyons pas étonnés. Pourquoi es-tu étonné des tribulations? Jésus dit au contraire, quand c'est à cause de moi, réjouis-toi. Réjouis-toi et soyez dans, vous rendez compte, dans l'allégresse. Voilà ce qu'on devrait faire quand on nous persécute, quand on nous calomnie. Dire Seigneur, alléluia! Vous dites, mais oula, c'est quoi ça? C'est... Alléluia Seigneur, c'est merveilleux! C'est comme cela que tu garderas ta flamme. Au lieu de ruminer en toi-même en disant, Seigneur, c'est pas possible. On se moque de moi. On me prend pour rien du tout maintenant. Non, je ne peux pas continuer comme cela. Non, non, Seigneur. Te suivre, oui, mais je ne veux pas être persécuté. Jésus nous a avertis. Prenez courage, il a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il nous avertit. Pourquoi es-tu arrêté, mon frère, ma sœur? Pourquoi est-ce, ce sont ces tribulations, cette opposition? Mais réjouis-toi. C'est normal, ce sont des choses normales. Au contraire, plus la tribulation sera grande ici-bas, plus ta récompense sera grande. Alléluia! Pas de tribulation, pas de récompense. Mais nous, on veut pas de tribulation et beaucoup de récompenses. Voilà comment certains chrétiens, ils se font des illusions. Pas de tribulation, Seigneur, mais tu as intérêt à me donner les récompenses. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On peut faire ça avec les hommes ici-bas, mais avec le Seigneur pas. Qui t'a arrêté, mon frère, ma sœur? On s'est moqué de toi. À cause de Jésus, continue ta marche. Continue, ta récompense sera grande. Il nous a été fait la grâce, nous dit Paul dans Philippiens, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alléluia. C'est là le témoignage d'un vrai amour pour le Seigneur. Lorsque nous aimons vraiment le Maître, nous sommes prêts à accepter de souffrir par amour pour lui. Il est dit à cause de moi, non pas à cause de nos erreurs, de nos bêtises, à cause de notre mauvaise langue. Il y en a qui souffrent et qui sont persécutés à cause de leur mauvaise langue. Tu n'auras pas une grande récompense avec ça, à cause de ça. Non, 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 non. La grande récompense est à cause de Jésus. Par amour pour lui, nous acceptons d'être rejetés et nous lui disons, me voici, Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'au bout, je veux aller. Ô Maître, tiens-moi par la main. Je mets ma main faible dans ta main puissante. Qui t'a arrêté, mon frère, ma sœur? des persécutions. Ne te laisse pas arrêter par ces persécutions. Ta récompense sera grande dans les cieux. Amen. Alors relève-toi. Dis Seigneur, oui, par amour pour toi. Tu m'as averti. Pourquoi? Je ne veux pas être désarçonné. Tu m'as averti. Troisième raison maintenant. Qui vous a arrêté? Est-ce une épreuve difficile? Maintenant, ce sont les épreuves de la vie qui nous concernent. Ce ne sont plus les tribulations à cause de Jésus, mais c'est les épreuves de la vie. Qui t'a arrêté? Et beaucoup de chrétiens sont arrêtés par les épreuves. Là encore, quand ils ont des épreuves, ils prient, Dieu ne les exauce pas. Au contraire, c'est encore pire qu'avant. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Plus je prie, plus ça va mal. Moi, je prie pour que tout aille bien, et puis d'un seul coup, tout va mal. Alors, si c'est ça, terminé. C'est terminé. Vous ne me verrez plus. C'est pas possible. Et le cœur se refroidit. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens qui ont été bénis, qui ont bien commencé, vous couriez si bien. Tu courais si bien, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pour que tu sois bloqué maintenant, est-ce cette épreuve? Un enfant qui est mort. Là aussi, nous aurions pu nous arrêter lorsque notre premier enfant est mort dans le sein de sa mère. Nous étions en Angleterre dans une école biblique. Et là, je suis sûr que l'ennemi voulait nous arrêter et nous faire dire, eh ben, si c'est ça, terminé. Seigneur, je ne peux pas continuer comme cela. Ce n'est pas possible. Mais ce qui m'a délivré, c'est ce que le pasteur, le directeur de l'école biblique en Angleterre, là-bas, lorsqu'il m'a vu abattu, il m'a dit, frère, toute chose concourra pour ton bien. Ne te décourage pas. Dieu fera concourir toute chose pour ton bien. Je l'ai cru par la foi. C'était le contraire. Mais je l'ai cru. Et effectivement, Dieu a fait concourir toutes choses pour notre bien. Nous ne comprenons pas tout. Mais que cela ne nous arrête pas. Ne perds pas ta flamme parce que quelque chose, tu ne comprends pas. Mais tous, nous sommes à la merci d'épreuves, de difficultés. Et tu ne dois pas voir l'épreuve comme une catastrophe, comme une punition ou comme un jugement de Dieu. Selon la parole de Dieu, l'épreuve doit être vue comme un test. Dieu teste ta foi. C'est la première des choses qu'il fait lorsque quelqu'un s'est converti à Jésus. Il teste notre foi pour voir si elle est authentique, si c'est de l'or pur ou si c'est un feu de paille. Dieu testera ta foi par des épreuves. Et c'est dans l'épreuve que tu vas révéler la qualité de ta foi. Amen. Ce n'est pas dans la bénédiction, quand tout va bien, quand tu es guéri, béni, que tu révèles la qualité de ta foi, mon frère, ma sœur. C'est dans le feu de l'épreuve que tu révèles qui tu es. La qualité de ta foi est révélée-la. Quand tu dis, ah, c'est ça. Ah non, Seigneur, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. Ah, il y a des chrétiens qui ont ça, même avec Dieu, hein? Pas d'accord. Pas d'accord. Et ils sont là, ils résistent à Dieu. Qui est-ce qui gagnera? C'est toi qui perdras. Tu devras tôt ou tard t'incliner si tu veux retrouver ta flamme. Dieu ne se trompe jamais. Utilise tes épreuves comme un test. Et tu pourras ainsi aborder d'autres épreuves. Parce que tu as été vainqueur dans l'épreuve précédente. Tu es prêt pour affronter une nouvelle épreuve.
Et à travers de chaque épreuve, tu es fortifié, tu es purifié, tu es renouvelé. Alléluia! Et c'est ainsi qu'on avance de victoire en victoire et de gloire en gloire. Alléluia! J'ai décidé de me laisser arrêter par personne, d'aller jusqu'au bout, dire Seigneur, un jour c'est à toi que j'aurai des comptes à rendre. Les hommes ne savent pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, mais toi, tu me connais. Dieu te connaît. Ne te laisse pas arrêter par les hommes. Va de l'avant, obéis. Utilise l'épreuve, non pas pour tomber, mais pour te relever. Si tu dois tomber, tombe à genoux. Et celui qui avance à genoux ne recule jamais. Amen. Alléluia. Si tu dois tomber, tombe à genoux. Et si tu avances à genoux, tu ne reculeras jamais. Amen. Amen. Qui t'a arrêté? Est-ce une épreuve difficile, incompréhensible? Mais est-ce que nous ne marchons pas par la foi? C'est par la vue qu'on marche. Tu ne comprends pas certaines choses aujourd'hui. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Et laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Lorsque nous serons dans la présence de Dieu un jour, et qu'il nous aura expliqué le pourquoi de nos épreuves, le but derrière, parce que le but de l'épreuve dans la pensée de Dieu est dans le but de nous approuver, et non pour nous réprouver. Dieu nous éprouve pour nous approuver et non pour nous réprouver. Et un jour là-bas, il nous dira, voilà pourquoi je t'ai fait passer par ce chemin difficile. C'était afin que tu apprennes telle ou telle leçon indispensable pour que ta foi grandisse et que tu t'attaches à moi et à moi seul. Et là, il nous montrera toutes les bénédictions qui ont découlé de ces épreuves. Et nous lui dirons, « Oh Seigneur, merci de m'avoir fait passer par ce chemin difficile. Car maintenant, c'est un poids éternel de gloire qui est notre partage. Alléluia! Qui t'a arrêté? Telle épreuve. Ne te laisse pas arrêter par l'épreuve. C'est un test. Non, pas d'accord, pas d'accord. Vous avez beau dire school et pas d'accord. Ah oui, mais tu ne pas, mon ami, si tu es dans cette attitude-là, tu ne passes pas l'examen. Tu resteras dans ta classe toujours. Tu ne passeras pas dans la classe supérieure. Pas d'accord. Ben, reste ici. Les autres passeront d'une classe à une autre. Ils auront bientôt le bachot et toi, tu n'as pas encore ton certificat d'études. Et tu as bientôt 55 ans et tu n'as pas encore ton certificat d'études spirituelles. Tu l'as pas encore, pas d'accord, tant que tu ne seras pas d'accord, voilà où tu en es, un illettré spirituel. Alors que l'autre qui s'est converti 20 ans après toi, il la met dans son bachot déjà. Et Dieu l'utilise. Ne te laisse pas arrêter, mon frère, ma soeur. Qui t'a arrêté? Utilise l'épreuve pour grandir, pour purifier ta foi, pour fortifier ta foi. Et dire, Seigneur, quelle est la leçon que tu veux m'apprendre? Je veux te glorifier. Je veux grandir. Je veux que tu sois honoré dans ma vie. Et rien ne m'arrêtera. Amen. C'est ainsi que tu garderas ta flamme. On en est où? Quel est le point? Combien de points je vous ai donné? Vous me suivez bien? Quatrième point. Qui vous a arrêté? Est-ce l'influence du monde ou un péché que vous ne voulez pas abandonner? Voilà un point encore important. Qui t'a arrêté? Est-ce l'influence du monde? Est-ce que le monde a pénétré dans ton cœur? Alors, ce n'est pas étonnant que ton cœur s'est refroidi, n'est-ce pas vrai? Et combien de chrétiens se sont refroidis? Parce que l'amour du monde est entré dans leur cœur. Au début, leur amour pour le Seigneur était pur, sincère, entier. Mais maintenant, le cœur est partagé. et ils sont là comme arrêtés. L'amour du monde nous conduit à la mort spirituelle. Ou alors est-ce qu'il y a un péché que tu sais qui déshonore Dieu dans ta vie? Tu ne peux pas avancer ni progresser spirituellement si tu caches ton péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Si tu veux redémarrer, confesse et abandonne ton péché. Ne joue pas avec le péché. Ne pense pas, parce qu'on est sous la grâce, que Dieu accepte n'importe quoi dans ta vie et qu'il te pardonnera toujours. On ne joue pas avec le péché. La grâce de Dieu n'est pas donnée pour nous amuser avec le péché, pour continuer dans le péché, mais pour l'abandonner et vivre une vie nouvelle avec le Seigneur. Amen. Qui t'a arrêté? L'influence du monde? Vous savez, le bateau est dans l'eau. Ça va bien. Mais si l'eau est dans le bateau, est-ce que ça va? Ça va couler tôt ou tard. Et vous savez, Israël a mis combien de temps pour sortir d'Égypte? Un jour. En un jour, Israël est sorti d'Égypte. L'Égypte, c'est le monde, l'image du monde. Mais le problème avec Israël, c'est que Israël a mis 40 ans pour que l'Égypte sorte de son cœur. 40 ans. 40 ans de désert. En un jour, ils sont sortis du monde. Mais le monde était là et il a fallu 40 ans pour que ça sorte. Et voilà pourquoi ils étaient dans cet état-là, complètement arrêtés, bloqués. Qui t'a arrêté, mon ami? S'il y a quelque chose qui a déshonoré Dieu dans ta vie, sois franc devant Dieu. Ne dis pas non, mais voilà, encore une fois, voyez, c'est pas de ma faute. De toute façon, c'est à cause des chrétiens maintenant que j'ai péché comme ça. Ils m'ont découragé complètement, maintenant j'ai tout abandonné. Et les uns n'osent pas dire que c'est le frère, mais il y en a qui disent, mais c'est le diable qui m'a fait faire ça. Là, il a bon dos, le diable. Ah, c'est le diable. Le diable ne peut rien te faire, mon ami, mon frère, si toi, tu ne lui donnes pas accès. Il ne peut rien faire. Si tu lui dis non, le diable ne peut rien faire. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous sommes une nouvelle créature. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Qui t'a arrêté? Mon frère, ma soeur, réfléchis un petit peu. Est-ce le monde maintenant qui t'enveloppe, pénètre, qui refroidit ton cœur, qui était si bouillant? Est-ce un péché que tu commences à justifier en disant, ah oui, mais non, c'est pas à cause de mon frère ou de ma soeur, c'est pas à cause du diable, mais c'est à cause de la famille. C'est dans la famille, ça. Ah, oui. Ça, c'est toujours la faute des autres. Ça, c'est la psychologie actuelle. C'est la faute du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère. Et on nous considère comme des victimes. Tu es une pauvre victime. Tu es dans cet état-là, mais non, c'est parce que tu n'as pas eu ça dans ton enfance, parce que tu n'as pas eu ça dans... Enfin, on explique tout. Tu es une pauvre petite victime. C'est la faute des parents. Ça, c'est vite dit. La Bible ne nous considère pas des victimes, mais des responsables. Ne l'oubliez jamais. Si tu as commis quelque chose de mal, n'essaye pas de te justifier en disant « C'est à cause de mon père, de ma mère, de mon oncle, ma tante, ma grand-mère. » C'est à cause de toi. Tu es responsable. Ils ont peut-être fait quelque chose de mal. Ça les regarde. Mais toi, tu es responsable. C'est toi qui as commis la chose. Et c'est toi qui dois demander pardon. Tu dois venir dans l'humilité, sincèrement, confesse, et Dieu te pardonnera, te purifiera, et tu retrouveras ta flamme. Alléluia! Qui t'a arrêté, mon frère, ma sœur? Et plusieurs sont bloqués. Plusieurs, ça dure des mois et des années. Tu as perdu ta flamme. Quand on voit certains chrétiens qui étaient bouillants et maintenant, vous les voyez dans le monde. Ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. N'est-ce pas triste? Cela nous fait de la peine. Ils avaient si bien commencé. Oh, combien nous devons veiller. Amen. Veillons, mes amis. Mais si tu es dans cet état-là, arrête de te justifier. Arrête de dire, ce n'est pas ma faute. Si tu as péché, tu dois confesser et il te purifiera.
Amen.
Mais ça doit commencer par toi. Cesse de regarder autour de toi ou d'accuser continuellement les autres. Regarde à ta vie, ton cœur. Il y en a qui sont spécialistes pour voir ce qui ne va pas chez les autres. Ils sont incapables de voir ce qui ne va pas en eux. Rien. Ils voient tout quand ils regardent. Moi, je sais. Celui-là, je sais aussi. Celle-là, je sais depuis longtemps. L'autre là-bas, tu peux rien me cacher, tu sais. Tu peux rien me cacher à moi. Et puis l'autre, t'en as trompé d'autres, mais pas moi. Il voit tout. Et lui, son cœur est refroidi. Il est complètement à côté de la course. Il voit rien du tout. Et toi, bon, tout va bien. Mais tu n'es plus comme avant. Mais ça fait rien. Mais non, mais c'est le Seigneur, c'est tout. Oui, maintenant le Seigneur, il est dans le coup maintenant, le Seigneur. C'est comme si le Seigneur, finalement, était d'accord avec tout ça. Le Seigneur sait tout, il sait, le Seigneur, il sait tout. Ça veut dire quoi, le Seigneur, il sait tout? Ça veut dire qu'il est d'accord? Ça veut dire que ça va, bon, alors maintenant tu peux rester comme ça? Le Seigneur sait tout, c'est vrai, mais il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Et ne te fais pas d'illusions. Tu sais tout ce qui se passe autour de toi, et tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. La Bible parle de ces gens, ce sont des pharisiens. Hypocrite. C'est cela. C'est l'hypocrisie et le pharisaïsme. Enlève cela de ton cœur. Fais ce que Dieu te demande. Ne te laisse pas arrêter. Amen. Va de l'avant. Purifie ton cœur. Et tu seras de nouveau léger. Et tu pourras courir dans la carrière qui est devant toi. De victoire en victoire. De gloire en gloire. De grâce en grâce. Alléluia. Quel point maintenant, on en est où? Cinquième. Ah, vous le voulez, le cinquième? Ah bon, alors je vais vous le donner. Qui vous a arrêté? Est-ce la négligence de votre communion personnelle avec le Seigneur? Voilà un point important, mes amis. Est-ce la négligence de votre communion personnelle avec le Seigneur? Mes amis, c'est là que nous devons nous sonder. Est-ce que tu as vraiment une communion personnelle avec le Seigneur? Est-ce que vraiment tu recherches sa face dans ton cœur? Est-ce que tu as cette relation intime et personnelle avec lui? Tu avais cela dans le passé, mais maintenant, où tu en es? Où en es-tu à ce sujet-là? As-tu perdu cette relation intime? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous réalisons cela, mes amis, si nous réalisons que sans lui, nous ne pouvons rien faire, alors nous chercherons continuellement sa face. Non seulement à un moment donné dans la prière, mais continuellement, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, ma vie t'appartient. Aide-moi, je compte sur toi, je dépends de toi. Est-ce que ta communion est personnelle? Ou alors est-ce que tu dois toujours avoir quelqu'un qui soit là comme une béquille, soit le pasteur, soit un chrétien? Si c'est, ils ne sont pas là pour être comme des béquilles, quand ils ne sont pas là, tu tombes par terre. Et ainsi sont beaucoup de chrétiens. Quand le pasteur n'est pas là, quand tel ou tel chrétien ne sont pas là, c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Ils vivent comme des païens. Dans l'église, vous les voyez, ils sont entourés, bien entourés. Mais en dehors de l'église, il n'y a plus rien du tout. Ils sortent, à peine sortis de l'église. Ils sortent le paquet de cigarettes d'abord, ça commence par ça. une fois en Suisse, nous étions à une réunion. C'est la première fois que je voyais ça. La maison était, la salle était au dernier étage. C'était comme une chambre haute. J'avais fait la réunion. On était invités. J'avais apporté le message. Tout s'était bien passé. On descend en bas. Les chrétiens étaient là. Ils discutaient un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai vu? En tout cas, un responsable de l'église qu'on connaissait. Il était là, on était, et puis nous on sortait pour partir. Qu'est-ce que j'ai vu? Au revoir, frère! Je dis, quoi? C'est quoi ça? Je vous dis, ça, c'était comme un choc que j'ai reçu. En haut, c'était un ange, et en bas, c'était quoi? Un petit démon. Ça m'a surpris. Qui vous a arrêté? Est-ce la négligence de votre communion personnelle? Est-ce que tu dépends continuellement des autres? Et quand les autres ne sont pas là, tu flanches? Et quand les autres ne sont pas là, tu... Ah, ils ne sont pas là, il n'y a personne, donc c'est bon. On peut y aller. Les autres ne sont pas là, mais il y en a un autre qui te regarde là-haut. Mais je vais mettre mes lunettes, il ne me verra pas. Ou je ne le verrai pas. Non. As-tu une communion personnelle avec le Seigneur? Mes chers amis, ce point est important. Combien de chrétiens n'ont pas de racines en eux-mêmes? Pas de racines. Leur confiance est dans les hommes. Les autres sont là pour nous aider, bien sûr. Mais nous ne devons jamais nous appuyer sur eux. Car si tu t'appuies sur quelqu'un, il tombera. Et toi avec lui. Sixièmement, qui vous a arrêté? Est-ce la négligence de votre communion avec les frères? Là, c'est un point important aussi. Maintenant, il est question de communion avec les frères. Un chrétien qui vit toujours tout seul, est-ce qu'il peut vraiment s'épanouir? Ce n'est pas possible. La Bible dit dans Actes 2, 42, les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et un chrétien qui n'a pas de communion avec d'autres, tôt ou tard, se refroidira. Nous l'avons vu tant de fois. Il est vrai que tu dois avoir ta communion personnelle. Mais à côté de cela, tu ne peux pas vivre tout seul. Tu as besoin de communion. Tu as besoin de te rassembler avec d'autres chrétiens qui aiment le Seigneur comme toi. Tu as besoin de cela. Un tison arraché du feu, est-ce qu'il peut brûler longtemps? Pas longtemps. Une bûche, quand elle est retirée du feu, tôt ou tard, elle s'éteint. Mais quand elle est avec les autres, la flamme est maintenue. La communion fraternelle est importante, mes amis. Et vous savez que le loup, il rôde autour de la bergerie. Et qui est-ce qu'il attaque bien souvent? Ce sont les brebis isolées, qui n'ont pas de communion avec les autres. Ça, c'est un point dangereux. C'est pourquoi il est important qu'on se retrouve avec ses frères et ses sœurs. Amen. Régulièrement. Cela est biblique. Et nous devons veiller à cela. Il persévérait dans la communion fraternelle. Parce que là, dans la communion fraternelle, on s'exhorte mutuellement. Et on s'arrondit les angles aussi mutuellement. En général, quelqu'un qui va nulle part, c'est quelqu'un à qui vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez rien dire. Il sait tout. Les angles ne sont pas arrondis. Mais quand vous vivez déjà avec quelques-uns, vous êtes sûr, c'est pas facile. Hein? Là, je vous assure que c'est la croix. Eh oui, mais c'est ça. Dieu permet cela pour nous façonner, pour nous briser, pour nous sonder. C'est comme cela que on réalise combien nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et ainsi, mutuellement, nous apprenons à prier, à pardonner, à nous purifier, à prier l'un pour l'autre. Voyez-vous tous les bienfaits qu'il peut y avoir dans la communion fraternelle? Mais si nous fuyons cela, tôt ou tard, nous perdrons notre flamme. Tu ne peux pas vivre tout seul.
Tu dois bien sûr rechercher ceux qui prient et qui aiment le Seigneur sincèrement. Mais tu dois le faire. Amen. Amen. Ne reste pas tout seul. Cherche la communion fraternelle. Tu en as besoin. N'est-ce pas vrai? Et je termine, septième point. C'est ce que je vous ai dit un peu au début, mais je vais le répéter maintenant. Septième point qui vous a arrêté, et c'était le problème des Galates, est-ce l'influence d'une fausse doctrine? Est-ce l'influence d'une fausse doctrine? Et dans le cas précis ici, la fausse doctrine, c'était quoi? Il disait, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est pratiqué de... qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc on voyait qu'ils avaient abandonné la grâce pour suivre la loi et être justifiés par leurs œuvres. Ça, c'était une fausse doctrine. Et on ne peut pas. C'est pour ça qu'ils étaient bloqués. C'est pourquoi le Saint-Esprit en eux était attristé. Quand on commence à accepter les fausses doctrines, c'est là que c'est comme de l'huile de... Pas de l'huile, de l'eau, oh pas non, qu'est-ce que je veux dire? Sur le feu, du sable, sur le feu. Ça éteint la flamme. C'est pourquoi est-ce l'influence de fausses doctrines? Pour que tu puisses reconnaître une fausse doctrine, tu dois d'abord connaître la saine doctrine. Amen. C'est important. Personne ne peut reconnaître une fausse doctrine s'il ne connaît d'abord la saine doctrine. Et le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment ce qu'est la saine doctrine. Tu dois te nourrir de cette parole. Amen. Et les vérités fondamentales de la parole, tu dois les connaître de telle sorte que lorsque tu entends quelque chose qui est mal, tout de suite, tu puisses dire non. Vous savez, j'avais lu une fois ce témoignage, je termine maintenant. Comment certains, les médecins, sont éduqués pour voir si un cœur est malade et s'il bat normalement. Tout de suite, quand ils mettent l'oreille sur le cœur, ou leur... comment on appelle ça? Stéthoscope, c'est ça? Comment il peut dire « Oh là, il ne bat pas normalement. » Comment il peut savoir ça? Pour savoir qu'il ne bat pas normalement, il a dû d'abord écouter des nombre de fois comment bat un cœur normal. Il a entendu et il a dû entendre et on lui a dit d'entendre comment bat un cœur normalement. Et quand il met son appareil, stéthoscope, et que... Ah, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que le vrai battement est comme ça. Comment peut-il discerner une fausse doctrine, un faux enseignement, seulement parce qu'il sait comment le vrai agit et se manifeste? Amen. Amen. Mes amis, dans ces temps de la fin, vous serez tous testés dans ce domaine-là. Et pourquoi il y a tant de fausses doctrines qui courent? Bien sûr, ceux qui répandent ces choses ont une grande responsabilité devant Dieu. Mais les premiers responsables, c'est vous. Dieu vous teste pour voir si vous connaissez bien votre Bible. Et que vous ne soyez là, pas là, toujours, tout de suite, dès que quelque chose de mu, magnifique se passe, extraordinaire, on est tout de suite. Il y a des chrétiens qui tombent dans le piège tout de suite, dans le premier panneau, d'une chose merveilleuse. Ah, c'est extraordinaire, viens là, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Quel est leur enseignement? Oh, je sais pas, on ne sait rien. Mais tu sais, c'est formidable! C'est extraordinaire! Ça se roule par terre! Ah bon, c'est ça qui est extraordinaire? Ça crie dans tous les coins! C'est ça qui est extraordinaire! Ah, c'est ça, c'est extraordinaire, ça! Regardez voir dans quelle stupidité nous tombons! Mais un chrétien qui a d'abord entendu le battement, ah, voilà comment on doit battre le cœur, et qu'il entend quelque chose d'autre, qui bat anormalement. Ah, là non, ça ne va pas. D'où l'importance. Dieu vous teste. Soyez comme les chrétiens, et soyons tous comme les chrétiens de Bérée, qui vérifiaient tout ce que Paul disait, pour voir si c'était conforme aux Écritures. Amen. Vérifiez. Contrôlez, examinez. Et le verbe examiner, dans Acte 17, veut dire examiner à la loupe. examiner avec sérieux, pour voir, après des recherches sérieuses, pour voir si ce qu'on nous dit est conforme à l'enseignement du Seigneur et des apôtres. Si le Seigneur et les apôtres n'ont pas prêché et pratiqué ce que vous entendez, vous devez le rejeter systématiquement. Ah oui, mais c'est des nouvelles révélations. Il n'y a plus de nouvelles révélations. C'est là la séduction. Tout est écrit dans la parole. Amen. Nous avons tout pleinement dans le Seigneur et dans sa parole. Sortir de cette parole, c'est entrer sur le chemin dangereux des fausses doctrines qui peut nous conduire à la perdition. Est-ce que le Seigneur et les apôtres ont prêché et pratiqué cela? S'ils ne l'ont pas fait, vous devez rejeter ce que vous entendez. Même si c'est merveilleux, Dieu vous teste. Le test final, c'est toujours la parole, et non pas les miracles, ni le surnaturel. C'est la parole. Amen. D'où l'importance, mes amis, de bien connaître la parole. Car dans ces derniers temps, beaucoup de chrétiens seront séduits. Puissions-nous vraiment être à l'abri de tout cela? Qui vous a arrêté? Que personne ne nous arrête. Et si nous avons été arrêtés sur un point ou sur un autre, sachons reconnaître nos erreurs. Et dire, Seigneur, pardonne-moi. Là, je me suis laissé arrêter. Ça fait des mois, même des années que ça dure. Ça suffit maintenant. Ça suffit. C'est fini. À partir de maintenant, je veux changer. Je veux cesser ce blocage en moi. Je veux mettre ma vie en règle avec toi. Et je veux te glorifier et repartir à zéro avec toi. Merci Seigneur, purifie-moi, pardonne-moi. Je veux regarder à toi et à ta parole et aller de l'avant malgré tout et envers et contre tout car tu reviens bientôt. Et je veux être debout lorsque tu reviendras. Puisse-t-il en être ainsi pour chacun d'entre nous. Et au Seigneur seul soit toute la gloire. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ainsi, Seigneur, que cette vérité pénètre au plus profond de nous-mêmes et que nous puissions ainsi te glorifier. Toujours plus et toujours mieux dans nos vies. Que rien ne nous arrête, Seigneur. Et que nous puissions utiliser toutes nos épreuves pour grandir, pour être purifiés, fortifiés, et faire l'œuvre que tu nous demandes.
Alléluia.
Jusqu'à la fin. Nous voici, Seigneur. Prends nos vies pour ta seule gloire. Amen. Restons Alléluia. Dans le recueillement quelques instants.
Alléluia. Alléluia.
Restons dans la prière.
Alléluia.
Ça ne sera pas long.
Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour ce message qui nous a porté comme un peu d'eau fraîche sur notre langue assoiffée.
Gloire
Seigneur, tu nous as éclairés comme tu nous as dit ce matin.
Alléluia.
Tu allais nous éclairer. C'est ce que tu as commencé de faire par ta parole
Alléluia.
Et par l'enseignement de ta parole. Et nous t'en remercions, Seigneur.
Merci.
Merci de ce que tu vas pour vous. Poursuivre l'œuvre que tu as commencée et que nous allons en voir les fruits.
Gloire à ton nom.
Et les résultats, Seigneur, louange, gloire et puissance à toi.
Merci.
Nous te remercions d'avoir parlé à nos cœurs,
merci.
À chacun,
Alléluia.
Selon notre situation,
béni sois-tu.
Selon ce que nous faisons ou nous ne faisons pas.
Alléluia.
Tu connais toutes choses, Seigneur.
Merci.
Tu es un Dieu sage. Merci parce que tu es aussi miséricordieux et tu nous parles et tu nous redresses au bon moment. Gloire et louange à toi.
Alléluia.
Alléluia.